positive, onde.
Ah mince, c'est déjà commencé là ?
Une immersion proposée par Seb Dill.
Tiens, regarde, j'ai trouvé ce livre ce matin en puce.
Fais voir. C'est chouette comme reliure. C'est quoi, comme matière ?
Ah oui, c'est chouette, t'as raison. Attends, je me renseigne. Alors... Ok, j'ai ma réponse. Pour découvrir tout ça, on a pris les choses en main à Positive Onde. Direction Annonay. Annonay, c'est dans le Nord Ardèche. On a rendez-vous à la tannerie parcheminerie Dumas avec Frédéric Dumas.
Au rond-point, prendre la deuxième sortie sur rond-point du 8 mai.
Bien, madame.
Prendre à droite sur la combe du Prieuré, puis votre destination se trouvera sur la droite.
Bonjour. J'ai rendez-vous avec Monsieur Dumas.
C'est moi.
Ah ben, enchanté.
Enchanté.
Je m'appelle Frédéric Dumas et je suis parcheminier à Annonay. Le parchemin, c'est très souvent confondu avec une autre matière. Quand on parle parchemin, bien souvent, à l'esprit vient l'idée de écriture. On pense que on peut écrire sur du parchemin, donc du coup, on imagine ça du papier. Donc, bien souvent, les personnes disent le parchemin, c'est une sorte de papier, un papier de luxe, ceci, cela, tatati, tatata. Et en définitive, ce n'est pas une matière végétale, c'est une matière animale. C'est-à-dire qu'on récupère la peau des animaux, et cette peau, on va la stabiliser en parchemin, et sur ce parchemin stabilisé, on va pouvoir donc du coup écrire. La matière première, qui est la peau d'un animal, il faut bien comprendre qu'on utilise un déchet de la chaîne alimentaire. La peau fait partie des déchets. On n'élèvera jamais un de ces animaux pour la peau. Hors de question. Donc nous, on récupère, on recycle en gros. Mais ça, c'est pas très connu.
Là, on est sur quelle étape ?
C'est la laveuse, c'est la première étape de la fabrication. En amont de cette étape qu'on fait en interne, on va d'abord acheter notre matière première. Et cette matière première, on l'achète à des abattoirs ou à des collecteurs de peaux. On se rend sur place et on trie les peaux dont on a besoin. Celle-ci me plaît, celle-ci ne me plaît pas. Alors c'est des choix en fonction de nos commandes.
Les peaux qui sont abattues aux abattoirs, et de nos jours on ne peut acheter que des peaux qui sont abattues aux abattoirs, ça c'est très clair, il faut que ce soit contrôlé par un vétérinaire. Nous-mêmes, on ne peut travailler les peaux, on ne peut aller les acheter que si nous avons un agrément de la part de la direction sanitaire et vétérinaire. C'est-à-dire que tout un chacun ne peut pas dire « je vais fabriquer du parchemin » ou s'il le fait, il n'a pas le droit. Voilà.
On l'entend depuis tout à l'heure, là en fond, revenons à cette laveuse.
On rentre nos peaux dans l'atelier et là, on fait ce qu'on appelle la trempe. Ou un autre mot qui est sympathique à entendre, c'est le reverdissage. C'est-à-dire qu'on va lui redonner toute sa verdeur qu'elle a eue durant sa vie animale, quoi. Donc cette trempe, elle consiste à remouiller la peau parce qu'elle a perdu de l'eau lorsqu'elle a été conservée et en même temps de la laver, tout simplement.
En gros, qu'est-ce qui se passe ? C'est de l'eau, en fait, c'est un cercle, il y a de l'eau et les peaux tournent.
Dans cette laveuse qui est cylindrique, il y a des pales qui tournent, qui entraînent l'eau, et dedans, il y a des peaux. Là, en l'occurrence, il y a 100 pots de chevreaux. Et ces pots de chevreaux, elles sont de couleur blanche.
Ça dure combien de temps le lavage des pots là? Elles tournent combien de temps?
Alors, le lavage dure de 1 à 3 jours.
En sans s'arrêter?
Ah non, non. Il y a des temps de rotation et des temps de stagnation. Des pots restent dans l'eau sans que ça bouge.
Tic-tac, tic-tac. Et si nous remontions le temps? Un peu.
C'est mon grand-père Marcel qui a créé cette entreprise. Préalablement, il était ouvrier dans une tannerie ou une mégisserie. Et un jour, il s'est dit, pourquoi pas monter mon entreprise? Et du coup, il s'est associé avec des personnes et ils ont été installés en 1926 dans le vieil Annonay pour venir dans ces locaux que nous occupons actuellement en 1936. Ensuite a succédé à mon grand-père Marcel, mon père André, et qui a commencé dans les années 50. Et moi, je suis arrivé en 1987. Et prochainement, il y aura même la quatrième génération avec ma fille Lucille.
Tic-tac, tic-tac. Et si nous remontions le temps? Un peu plus. Genre 2 siècles avant notre ère.
Alors, moi, je ne suis pas tellement historien, j'ai quelques notions. Je peux simplement le situer dans une période où il y avait une guerre entre les Perses et les Égyptiens. Et la transmission du savoir était quelque chose de très fort de tout temps. Et notamment à cette période, il y avait les Égyptiens qui écrivaient sur du papyrus. Le papyrus étant des roseaux défibrillisés, mis sous forme de feuilles, et ils écrivaient sur des roseaux, sur du papyrus. Et ils exportaient leur papyrus en Perse. Et la Perse, à un moment donné, a dû subir l'embargo de l'Égypte, parce que les Égyptiens voulaient garder leur savoir, ne voulaient plus transmettre de savoir, et du coup, ni même de support d'écriture. Donc les Perses qui voulaient écrire n'ont plus pu acheter du papyrus, et ont constaté de façon empirique qu'ils pouvaient écrire sur une matière animale. Donc comme c'était de la peau animale, comme c'était issu de l'élevage, eh bien ça a été un grand développement et ça a supplanté le support papyrus, parce que le papyrus on peut le faire en gros que sur les bords du Nil, alors que le parchemin issu de l'animal on pouvait l'imaginer dans le monde entier et ça s'est développé dans le monde entier comme cela. Donc le parchemin est coincé entre le papyrus, une matière végétale, et le papier, une matière végétale. D'où on revient à notre boucle où on pense que le parchemin c'est végétal et non pas animal.
On revient au présent et dans l'atelier, on a vu la trempe. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite?
Et bien là je vous propose d'aller voir John qui est mon collaborateur et qui travaille à l'écharneuse.
Et bien allez, on y va. L'écharneuse, c'est ce petit bruit qu'on entend là.
C'est ça, tout à fait. Chose intéressante à dire, c'est que c'est une machine Mercier qui vient d'Annonay.
D'accord, donc là, on est en production locale même sur la machine.
Oui, tout à fait.
Alors là, c'est les pots qui sont sortis de la première étape qu'on a vue tout à l'heure, là dans l'eau.
Voilà, elles sortent de la trempe. Elles ont séjourné 2 jours dans de l'eau. Et là, il les passe côté chair pour enlever le reste qui n'est pas propre.
Alors là, je sais pas, je vais peut-être pas parler de John qui est concentré, mais on passe la peau entre deux rouleaux en fait.
Alors même trois rouleaux.
Trois rouleaux.
Il y a un cylindre sur lequel repose la peau, et ensuite il y a un cylindre qui entraîne la peau vers soi. Un autre cylindre qui tourne à l'opposé et qui lui comporte des lames, et c'est avec un réglage on décide de plus ou moins serrer ou desserrer.
Donc là on va passer chaque pot dedans et les pots là à mesure on les met...
Alors ensuite l'étape qu'il va faire après c'est nettoyer tout autour, que la machine soit toujours très propre, et là ensuite avec un couteau on va enlever ce qu'on n'a pas besoin. Rendre une forme à la peau, quoi. Celle qui sera celle à la fin. Ah, ça aussi. En faisant faisant quoi?
Alors, on les passant quatre fois, ça me faisait la marque et là ça me faisait un trou quand je les passais sur le côté.
D'accord.
Pour dévisser, c'est dans ce sens-là.
Faut que tu fasses venir ça ici.
Oui. Ouais, c'est bon. Parce que j'ai dévissé deux fois quand même, parce que les premières, les dix premières, ça les arrachait un peu.
Et oui, c'est la peau qui commande. Alors chaque fois qu'il y a un problème, il faut essayer de le résoudre.
Et de re-régler la machine.
Et de re-régler la machine, ouais.
On est sur une machine qu'à quel âge, là?
Je sais même pas vous dire. C'est début 20e siècle. Première moitié 20e siècle.
Comme quoi, c'est des machines fiables.
Oui, tout à fait. Et dont on peut réparer aussi. C'est pas électronique.
Ah oui, cette machine, elle est ancienne, elle est fiable. Mais niveau son, ça fait quand même du bien quand on s'en éloigne. Non?
Le parchemin, on ne fait pas que les métiers du livre, c'est-à-dire calligraphie, enluminure et reliure. Et ce qui nous fait travailler le plus à l'heure actuelle, ce sont des gainiers ou des ébénistes, et ils collent sur du bois du parchemin, et ce parchemin est ensuite mis au mur en déco, qui fait référence à la période art déco dans les années 1930, avec notamment par exemple Jean-Michel Franc qui faisait des pièces entières recouvertes de parchemin, tout comme d'autres personnes faisaient des meubles, comme par exemple Arbus, si certains peuvent connaître. Voilà, donc c'est de la gainerie de panneaux ou de meubles, et c'est ceci qui nous fait vivre à l'heure actuelle. Tous les autres usages sont un petit peu, je dirais, anecdotiques par rapport à la gainerie. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu les métiers du livre, calligraphie, très peu, enluminure, beaucoup plus, reliure, et au même niveau. Et ensuite, effectivement, ma femme, par exemple, reconfectionne des abat-jours en parchemin. Quand vous avez un vieil abat-jour qui est fendu, eh ben, on peut vous le refaire. Et ça, y a très très peu de personnes qui savent, d'une part, le faire. Alors, on a quelques clients, mais ils ne sont pas localisés dans la région, c'est pour ça qu'on accepte de le faire. Après, y a des usages comme la pêche. On peut découper des leurres dans du parchemin et s'en servir pour la pêche. Il y a des protections. Dans le monde médiéval, il y a pas mal de personnes qui l'utilisent pour faire de la protection, pour protéger des objets, comme des boucliers par exemple. Dans la sellerie, l'harnachement, c'est des choses que l'on retrouve. Et j'allais oublier la musique. La musique, en fait, un musicien qui est un percussionniste, quand il tape sur son tambour avec des baguettes ou avec des mains, en fait, il tape sur une peau, disent-ils, mais en fait, c'est ni plus ni moins que du parchemin. Le parchemin fait partie des 217 métiers d'art référencés et en fait partie des métiers d'art rares identifiés par l'Institut National des Métiers d'Art. En France, nous sommes plus que 3 parcheminiers et nous sommes en plus labellisés EPV. C'est-à-dire, nous sommes une entreprise du patrimoine vivant. Sur les plus de 3 millions d'entreprises, il n'y a que 1500 entreprises qui sont labellisées entreprises du patrimoine vivant. C'est-à-dire qu'on a un savoir-faire ancien, qu'on essaye de le maintenir et de le développer.
Bon, j'aimais bien le son du djembé, moi. Et j'aimais bien le son du djembé, mais il va falloir retourner dans l'atelier et je crois qu'on va retrouver encore un petit peu des charneuses. Un tout petit peu.
Alors, les pots qui sont là, dans ces bidons, par bidon, il y a à peu près une trentaine de pots. Ça, ce sont des pots de chèvre qui sont prêtes à être cadrées pour être séchées. Et c'est une fois sèche qu'on va appeler cette matière du parchemin. Donc là, on s'aperçoit que la peau, elle fait en gros 4 mm d'épaisseur. Et à la fin, elle fera 0,4 mm d'épaisseur. Donc là, on voit bien que c'est la peau de l'animal. Parce que quelquefois, quand on a du parchemin, les gens disent « Ah oui, mais ça a été poncé, ça a été séparé en deux ou en trois. » Mais non, c'est la peau comme ça que l'on sèche, et une fois sèche, elle perd 10 fois son épaisseur.
Là, pour décrire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça ressemble à quoi? Enfin, on est tout blanc, là.
C'est tout blanc. Alors, c'est tout blanc parce qu'on veut que ce soit tout blanc. Et celle-ci, elle séjourne un petit peu dans de l'eau oxygénée pour essayer de les éclaircir encore un petit peu. Voilà. les charneuses, ici, il y a une palette sur laquelle il y a à peu près 200 peaux de moutons noirs. Et ceux-ci, je suis allé les chercher à Sisteron.
C'est vous qui allez chercher chaque fois les peaux ?
Oui, tout à fait.
Il n'y a pas, mettons, si on va, je sais pas, vous allez à l'étranger chercher des peaux, on peut pas les commander sur...
On peut, mais on sera toujours moins bien servi que si on y va.
Donc ça demande potentiellement pas mal de voyages.
Oui, tout à fait.
C'est quoi, je sais pas, l'endroit le plus loin où vous pouvez aller chercher des peaux pour avoir des spécificités
Là où je suis allé le plus loin pour chercher des peaux, c'est il y a récemment, en Belgique, pour aller chercher des peaux de bison.
Parce que c'est spécifique, on peut les trouver que là-bas en fait.
Ben parce que je suis allé chez le monsieur qui a introduit les bisons d'Amérique en Europe.
Alors là, c'est mouton noir, là, pour revenir sur cette palette, qu'est-ce que ça va devenir ?
Eh ben, si le mouton est de laine noire, la peau sera noire ou grise, mais de façon naturelle. Voilà. Alors je peux les teinter, mais celles-là, elles seront teintées naturellement, avec des effets différents.
Le succès d'un parcheminier ou d'un tanneur, c'est de bien choisir ses peaux. Et surtout le parcheminier, parce que nous, on ne peut pas cacher les défauts de l'animal. C'est-à-dire qu'on ne va voir que ce que l'on a acheté. Et sous un poil ou sous de la laine, c'est très difficile de savoir ce qu'il y a. On s'apparente un petit peu au métier du bois, où il faut couper le tronc pour savoir ce qu'il y a dedans. Et quelquefois, quand on achète la bille, ben dedans, c'est pas terrible. Et ben nous, c'est pareil. On est un des seuls métiers où on achète quelque chose sans savoir ce qu'on va avoir en résultat à la fin. Donc c'est l'expérience qui fait qu'on va pouvoir bien sélectionner ou moins bien sélectionner. Et notre première étape, c'est la plus importante, c'est celle-ci, la sélection.
C'est quoi cette espèce de... Alors j'appellerais ça une machine à laver, mais c'est comme un tambour de machine à laver qui tourne là-bas au fond.
Oui.
Il y a quoi dedans ?
Ben dedans, il y a des pots et un client nous a demandé de les teinter en noir. Pour faire une table basse avec un mélange d'un déco noir et blanc. Là, par exemple, il y a combien de pots, John ?
Il y a 6 pots, 9 pots.
9 pots. Mais quand il y en a plus, on a d'autres outils qui sont comme ceci, à peu près la même forme, c'est-à-dire comme un tambour d'une machine à laver le linge, mais plus grand, quoi.
Et là, on met les pots dedans ?
Là, on peut mettre une cinquantaine de pots de chèvre. Mais il peut y avoir encore plus grand, avec l'autre foulon qui est au fond. En fait, ça s'appelle un foulon ou un tonneau. Voilà.
Mais ça ressemble à un tambour de machine à laver, je suis désolé.
Mais l'origine du foulon, c'est quoi ? L'origine du foulon, ça date des Romains quand ils ramassaient les grappes de raisin et qu'ils les écrasaient avec leurs pieds. Ça s'appelle fouler. Mais après, par extension, ça a pris la forme cylindrique qui ressemble à un tambour d'une machine à laver le linge.
Ah voilà, on nous y voit là, ça ressemble à un tambour.
Ah oui, tout à fait.
J'avais raison quand même.
Voilà. Chacun chez soi a un foulon en fait.
Est-ce que si je parle dedans, ça fait un peu un bruit bizarre ? Oui, ça fait un peu un bruit bizarre. On se rend compte de la taille là.
Oui, et alors ça ferait un bruit différent si c'était en bois. Là, c'est en inox. Pourquoi en inox ? C'est parce que ça rouille moins et c'est plus facile d'entretien. Voilà. Donc tous les foulons ont le même raisonnement, c'est-à-dire qu'il y a une porte qui doit être fermée. Voilà. Et ensuite, c'est comme toutes les machines, on met en route et ça tourne. Plus ou moins vite, on peut régler la vitesse. Et à côté du foulon, il y a toujours ce qu'on appelle une cloche. Alors c'est pas l'opérateur qui met les produits dedans, c'est simplement quelque chose encore de cylindrique ou que ça peut être carré et dans lequel on met des produits et ça va directement dans le foulon.
Des produits qui vont teinter
Qui vont teinter, qui vont dégraisser, on peut mettre toutes sortes de produits. Et le tanneur va mettre d'autres produits.
Là, si on est sur de la teinte, on utilise quel genre de teinte ? C'est des pigments naturels ? On est sur quoi ?
Alors, c'est de la coloration. C'est-à-dire que on va pas amener un produit qui va charger la peau, qui va couvrir la peau. C'est des colorants. C'est comme si vous prenez une photo et que vous avez un filtre dedans. Si vous voulez voir ce que vous prenez en photo, il ne faut pas qu'il y ait de pigments. Il faut simplement qu'il y ait des colorants.
Voilà, c'est ça. Donc ce sont des colorants en poudre qu'on dilue dans de l'eau et qu'on met en présence avec la peau.
Et là, ça reste combien de temps du coup dans le foulon ?
Ben, habituellement, on a des temps de rotation qui sont d'une heure. En général, on dit au bout d'une heure, c'est fait, quoi. Le travail est fait.
Je voudrais changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde.
La différence entre un parchemin et un cuir, c'est que le parchemin n'est pas tanné. Il n'y a pas d'agent tannant comme du végétal, comme du minéral, comme des huiles de poisson, etc. Alors que le cuir, c'est tanné. Et c'est la définition du cuir. Un cuir, c'est une peau tannée. Un parchemin est une peau non tannée. Là, ce qu'on va faire, maintenant, on va faire tourner une autre machine qui s'appelle une coudreuse. Et dans cette coudreuse, dans celle-ci du moins, il y a des peaux de bison, de taureau et de veau qui sont prêtes bientôt à être cadrées.
Alors là, comment on pourrait décrire cette machine ? Moi, je dirais il y a un bain d'eau et dessus, il y a comme une espèce de pale de moulin, sauf que ce n'est pas l'eau qui fait tourner le moulin, c'est la pale qui fait tourner l'eau, c'est ça ? On pourrait le décrire comme ça ?
C'est ça, tout à fait. Et là, on voit réapparaître, au bout d'un moment, les peaux qui vont tourner de façon intelligente dans ce bassin. Et la coudreuse, elle ne fonctionne que si elle a des proportions bien définies. Sinon, c'est pas parce qu'il y a un moulin au-dessus et de l'eau que ça va tourner. Il faut qu'il y ait une forme cylindrique, mais pas totalement. C'est cylindrique jusque-là, et puis après, ça se termine par un calcul mathématique. Et là, on aperçoit donc ces peaux. Mais dedans, on peut faire toutes sortes d'opérations.
Et là, c'est quelle opération qui se réalise ?
Là, c'est la dernière opération dans laquelle on stabilise un petit peu les peaux avant de les cadrer. Parce qu'on n'a que peu de cadres pour des grandes tailles. Du coup, toutes les semaines, on en cadre 4.
Donc là, on est sur combien de temps, là ?
Là, ça peut rester une semaine, deux semaines, comme ça. Mais c'est pas gênant. Tout le travail aurait été en amont. Voilà. Mais ça aurait pu être cadré en un jour. Hein.
Voilà.
Je mets les pinces à droite et à gauche.
Qu'est-ce qui va se passer là ?
Alors là, on va cadrer des peaux. On va cadrer des peaux de chèvre sur notre cadreuse. Donc en étant la peau sur un cadre en métal, tout troué. Et on utilise des pinces. Et ces pinces, ben, elles pincent la peau d'un côté. À l'opposé, il y a un trou pour mettre notre doigt. Et dessous, il y a un ergot qui permet d'aller dans les trous de ce cadre.
Pour tendre la peau.
Pour maintenir la peau tendue.
Allez, ben on vous laisse faire.
Voilà.
J'espionne. Je suis pas loin, faites gaffe.
Donc ça, c'est caractéristique du cadrage. Quand on est seul, eh ben, on met la musique. Quand on est deux, on discute.
Oui.
Bon, ben, je suis pas là à discuter.
Jean-Charles, vous en a pris
40.
Jean-Charles ?
40 ou 50, il en a pris.
Les chefs, 52, je crois. Il m'a dit, John, il est au courant. Il y en avait 52, je crois, c'est ça ?
Ouais, normalement, il l'a marqué sur un bout de parchemin. Donc, ouais. Ouais.
Ici, quand on prend des notes, on prend des notes sur des parchemins.
Ouais.
Ah oui, tant qu'à faire.
Tout le temps.
Alors là, on vient de mettre l'appareil en route, là où on a mis tous les cadres. Alors moi, je dis l'appareil, mais ça a un nom.
Bon, c'est une sèche, tout simplement. Oui, effectivement, on introduit de l'air chaud et il y a une extraction d'air humide. Voilà, et ce qui nous permet de cadrer tous les jours 20 cadres.
Donc là, les cadres sont dedans, là, c'est cadré. Ça reste comme ça là toute la nuit, ça va rester comme ça, l'air chaud et l'air humide qui va s'en aller.
Oui.
Et mettons demain matin, on arrive, on peut décadrer.
On peut décadrer et on décadre, effectivement.
On doit décadrer.
On doit décadrer.
Là, nous avons vu la fabrication, mais il n'y a pas que la fabrication.
Ici, nous nous trouvons dans la salle que l'on appelle recherche et développement. On a installé toutes nos machines à coudre avec triple antennement, surjeteuse. Et de l'autre côté, il y a la grande table sur laquelle ma femme refait ici des abat-jours en parchemin. Alors là, ça fait un peu l'esprit musical, mais c'est ni plus ni moins que du parchemin. Voilà. Les clients nous amènent des abat-jours abîmés et on les refait. Ils choisissent même leur peau. Ça peut être des peaux de toutes sortes de couleurs.
Ah, je peux venir, genre si j'ai un abat-jour que je veux refaire comme ça en parchemin, et vous avez des peaux à me proposer, je dis, oui. Voilà, je veux que ce soit celle-là.
Tout à fait, ouais. L'atelier, lui, il est ouvert à tous ceux qui veulent acheter du parchemin, bien évidemment. Les visiteurs peuvent venir visiter le musée. Alors le musée, il est parti de l'idée que je constatais quasiment quotidiennement, c'est que dans mon entourage, personne ne savait ce que c'était que le parchemin. J'explique le parchemin, mais la plus belle façon d'expliquer le parchemin, c'est de montrer les étapes. Et on a conçu un musée très didactique qui explique vraiment... D'abord l'histoire d'Annonay, parce qu'il faut savoir qu'Annonay, pendant des siècles, c'était l'histoire de la peau, avant que les papetiers arrivent au XVIIe siècle. On a des traces depuis l'an 800 sur Annonay, où il y a des personnes qui travaillent la peau, parcheminiers, mégissiers, tanneurs, etc. Donc c'était d'abord le travail de la peau, et ensuite sont venus les papetiers. Ça c'est le bruit habituel des parchemins. Je touche des peaux qui font 0,1 mm d'épaisseur à 0,3 mm d'épaisseur pour les plus épaisses. Et plus c'est fin, plus on voit à travers. Et des livres étaient écrits côté fleur et côté chair. Une peau, il y a deux côtés. Le côté où il y avait le poil qu'on appelle côté fleur, et l'autre côté, côté chair. Côté chair, côté fleur. Et ça, c'est valable pour le cuir. Alors le côté valeureux est toujours le côté fleur. Le moindre défaut, C'est un défaut, quoi. Mais il peut y avoir des défauts naturels et des défauts induits par l'homme. Vous voyez, par exemple, une peau comme ça, elle a été froissée. Et ça, je ne peux pas le vendre à un client. Alors, il y a une parade, c'est que ça, si je le remouille, je le recadre et ça redevient plat. Donc, tout est recyclable, même dans mes peaux recyclées. On a aussi également des ateliers dans le musée. On reçoit des clients qui sont maintenant des amis et qui dispensent des stages de calligraphie, d'enluminure.
Il est bien ce verre-là.
Alors après, on a des clients qui nous demandent un verre, et je l'ai trouvé, comme ceci. C'est un verre qui était très connu dans les années 1850, mi-19e siècle. C'est un verre aux liures et on le vend à la Bibliothèque nationale. Mais c'est en faible quantité, c'est que des petites quantités. Il faut être là pour répondre présent, quoi. On a vraiment tout type de clientèle. Ça peut être d'un particulier, d'une association, un magasin qui revend, des gens qui font des stages, des institutions, des maisons de luxe. Vraiment, on a tout en face de nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on propose tellement une quantité de parchemins différentes, avec des possibilités différentes, que ça, chacun peut trouver son bonheur.
Merci pour leur participation musicale involontaire à Raphaël, Mbemba Bangoura, les compagnons de la chanson. Musique additionnelle, John Bartman.
Ça peut aussi s'imprimer chez soi sur son imprimante. Ça, c'est pas toujours.
Là, je pourrais avoir chez vous, j'imagine, du parchemin en format A4 et partir avec ma ramette de parchemin format A4 et imprimer.
Oui, tout à fait. La seule différence, c'est qu'il ne faut pas de suite vouloir toucher. Il faut laisser sécher un petit peu parce que ça n'a pas un pouvoir pénétrant comme le papier. Nous avons la possibilité de recevoir le monde parce qu'on a un musée, parce qu'on a un magasin, parce qu'on a l'entreprise. Mais il y a aussi les réseaux sociaux. Ça, c'est ma fille qui s'en occupe, c'est la nouvelle génération. Et également un site internet, tanneriedumas.com. Voilà, là, vous avez toutes les informations de toutes les possibilités, parce qu'il y a le côté touriste-visite et le côté fabrication. Voilà.
Positive Onde.
Sur votre radio préférée, puis en podcast, sur toutes les plateformes. Info, sebdihl.fr, sebdil.fr.
C'est fini.